News FM.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de News FM sur le 101.2. Bienvenue dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Alors il y a 3 ans environ, La Voix de l'Emploi a abordé le thème de l'emploi au féminin, des femmes entrepreneurs et des inégalités sexistes dans le milieu de l'entreprise. Nous recevions pour cela 4 représentantes de réseaux professionnels de femmes. Nous avons souhaité refaire un point sur ces questions qui sont des indicateurs importants à la fois de l'évolution du monde du travail, mais aussi des relations entre hommes et femmes dans notre société. 3 invités sont avec nous en studio aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Mégane Major. Bonjour Mégane.
Bonjour.
Donc Mégane, vous faisiez partie justement des 4 invités d'il y a 3 ans lors de cette émission.
Tout à fait.
Et bien vous allez revenir pour nous évoquer à nouveau cette thématique des femmes entrepreneurs, mais aussi des femmes dans le milieu de l'emploi. Donc pour vous présenter, bien, vous êtes présidente du réseau FCE, Femmes Chefs d'Entreprise, Grenoble-Alpes, et vous êtes également gérante de l'agence WITI, donc c'est une agence de production vidéo et photo, c'est ça ?
Exactement.
Voilà. À vos côtés, Maria Archer. Bonjour Maria.
Bonjour.
Bienvenue pour votre première à News FM. Donc Maria, vous avez monté une activité économique sur Fontaine, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc de la région grenobloise, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec notre région. Donc c'est un salon de beauté qui s'appelle Ohama. Vous aurez l'occasion donc de nous présenter un peu plus cette activité dans quelques minutes. Et notre troisième invité, c'est Émilie Debarros. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également à vous. Donc Émilie, vous avez repris une activité, une entreprise, hein, il y a une 20aine d'années.
Oui, c'est ça. À l'époque, j'avais 20 ans. Donc j'ai repris une miroiterie à Saint-Martin-d'Hères qui s'appelle Sogemi.
Très bien. Eh bien, on va en parler également, puisque c'est intéressant donc d'avoir des témoignages un petit peu différents, à la fois reprise d'activité. Donc, Mégane, c'est pareil, hein, vous avez repris cette agence de production photo et vidéo, alors que Maria, vous avez, c'est votre idée, c'est votre bébé.
C'est ça, tout à fait.
Qui a vu le jour. Alors, merci à toutes les trois d'abord d'être avec nous pour partager ce moment sur News FM. Juste un chiffre pour lancer notre discussion. Ce chiffre d'ailleurs était déjà le même il y a 3 ans. Apparemment, ça n'a pas trop évolué. On estime qu'en France, 30% des entreprises sont portées, créées par des femmes, donc une entreprise sur 3. Vous me reprenez hein, les unes les autres si vous avez des chiffres plus récents, mais apparemment...
Non, c'est bien ça, tout
voilà,
à fait.
Ça n'a pas trop changé. Alors, ma première question qui s'adresse à vous trois, quels sont pour vous les principaux freins à la création d'activités pour les femmes qui expliquent qu'on n'est pas encore dans une parité complète ?
Pour ma part, je pense qu'il y a différents facteurs. Il y a quand même le fait d'oser. C'est pas si évident que ça, d'oser, c'est toujours assez difficile pour une femme de se dire qu'elle a tout ce qui est requis pour pouvoir gérer une entreprise. Elle va souvent avoir tendance à voir ce qui lui manque et pas tout ce qu'elle a qui lui permettrait de pouvoir accomplir son projet. Et ça, c'est valable également dans les entreprises quand il y a des postes un peu à haute responsabilité ou des postes de direction qui s'ouvrent. Très souvent, les femmes peinent un peu à postuler parce qu'elles vont avoir tendance à se sous-estimer et à toujours se focaliser sur ce qui leur manquerait comme compétences. Mmh. Plutôt que de valoriser toutes les compétences qu'elles ont. Donc il y a quand même, en tout cas pour ma part, un premier facteur qui est bien réel, qui est le fait d'oser. C'est toujours compliqué de se dire qu'on est une femme et qu'on a de l'ambition. Tout de suite, ça nous donne aussi une image un peu requin, un peu négative, qui fait que c'est compliqué aussi, je trouve, d'assumer quand on a de l'ambition et qu'on a envie de réussir professionnellement ou de réussir en tant que chef d'entreprise.
Donc ça veut dire que ce problème de confiance en soi, c'est d'abord et avant tout à cause du regard des autres, du regard masculin sur son ambition, sur son envie d'occuper des postes à responsabilité ?
Je pense que aussi c'est les femmes ont tendance aussi à avoir des freins. Ça fait partie un petit peu de la différence par rapport, je pense, aux hommes. C'est qu'on se donne plus de freins, on a plus de freins en tant que femme. On va douter de ses compétences, on va peut-être plus se poser de questions. Et c'est ce qui, je pense, est un petit peu la différence avec la gente masculine. On va se poser beaucoup plus de questions, je pense, vis-à-vis... d'entreprendre en fait. Je pense que c'est quand même ces freins qu'on se donne. On a tendance c'est plutôt des freins. On se pose trop de questions.
Que les femmes se posent
beaucoup plus de questions. Elles se créent des freins. Ouais, toutes seules. Ouais.
D'accord.
Oui, puis je pense qu'en fait, il y a une autre exigence en fait envers nous-mêmes, envers la société, où on a vraiment cette envie d'avoir une base solide avant de se lancer, donc d'aller chercher toutes les informations, tous les soutiens qu'on peut avoir. Et il suffit qu'on ait une sorte d'instabilité à un endroit pour qu'on se dise « Ah ben non, du coup, je ne vais pas le faire, je ne vais pas sauter, je ne vais pas me lancer par peur justement de ne pas y arriver. » Et du coup, bah, je pense qu'il y a aussi ça qui fait partie, on va dire, du quotidien de la femme.
Ouais, je pense que c'est vraiment 50-50. Il y a une partie où c'est effectivement la société, qui est quand même une société depuis très longtemps, qui est construite et créée autour de l'homme, ça c'est certain. Pour ma part, j'ai beaucoup manqué d'exemples féminins de réussite. On commence à en voir de plus en plus. Depuis quelques années, on voit des femmes élues, on voit des femmes qui sont à la tête d'entreprises incroyable, on se rend compte qu'il y a des femmes un peu partout dans le monde qui ont vraiment du pouvoir et un poids au niveau sociétal. Mais pour ma part, j'ai quand même grandi avec très peu de modèles féminins. Donc il y a cette part où on manque de modèles et d'exemples féminins qui fait qu'on se dit si moi j'y vais, il faut vraiment que je sois prête, il faut vraiment que mes fondations elles soient extrêmement solides parce que je me dois de réfléchir et de prendre toute la mesure de ce que ça implique de créer une entreprise. Et puis, l'autre partie, la société et nous, les freins qu'on se pose. C'est vraiment les deux qui devront avancer dans une même direction pour que les choses, elles évoluent.
Alors, vous parliez effectivement d'un manque de modèles ou de visibilité de femmes qui pouvaient servir d'exemple. Et vous le disiez, Megan, à l'instant, qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué. On voit plus facilement les femmes. Elles sont mises en avant parfois. Et puis, il y a aussi de plus en plus de structures qui sensibilisent notamment les jeunes filles. Sur l'égalité, tous les métiers sont accessibles, mais aussi de leur montrer que pour ce qui est de la création d'entreprise, elles peuvent le faire. Il y a quelques émissions de ça, je crois même que c'est la dernière, si je ne me trompe pas, on recevait l'association 100 000 entrepreneurs qui donc œuvrent vraiment dans ce domaine-là. Du coup, ça joue aussi à l'évolution des mentalités, l'évolution des regards, et puis changer un peu l'esprit des femmes et des jeunes femmes sur ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont capables et qu'elles sont leur principal ennemi dans ce domaine-là lorsqu'elles doutent.
Oui, tout à fait. Nous, on est les femmes chefs d'entreprise, FCE, au niveau national. On est partenaire de 100 000 entrepreneurs et on a des conventions signées sur le territoire avec GEM, avec l'IUT2, avec l'IAE. Parce que, et là, déjà aujourd'hui, il y a des jurys AGEM et il y a des adhérentes FCE qui y participent, parce que ça fait partie pour nous de notre devoir de transmission et justement d'exemplarité, d'aller au contact des étudiants, des jeunes, parce qu'avec 100 000 entrepreneurs, on intervient auprès des collégiens, auprès des lycéens, pas uniquement des jeunes lycéennes ou collégiennes, mais bien des classes mixtes, pour leur dire que il est important de se faire confiance et d'oser, mais que de toute façon, il est important d'entreprendre sa vie. Il est important, à un moment donné, de se rendre compte, quand on est jeune, que quoi qu'on nous dise, quel que soit le chemin qu'on nous montre, il n'y a que nous qui pouvons décider de ce qu'on a envie de faire, de comment on a envie de le faire. Et du coup, nous, notre mot d'ordre, c'est vraiment de leur dire, osez. Osez entreprendre votre vie, osez vous lancer. L'échec en France est un peu un gros mot. On a tendance à se dire qu'il ne faut pas échouer, alors que c'est quand on tombe et qu'on se relève qu'on apprend. Donc voilà, c'est vrai que pour nous, il y a vraiment ce travail-là et on adore ça. Et c'est aussi une vraie sensibilisation auprès des garçons. Parce que le tout, c'est pas de dire... Moi, je suis un petit peu mitigée sur le fait de toujours faire des articles sur l'entrepreneuriat féminin, dans le sens où nous, on n'a pas envie d'être mise en avant parce qu'on est des femmes. On a envie d'être mise en avant parce qu'on est experte dans nos domaines. Le jour où moi, je paierai moins de charges sociales URSSAF qu'un homme, là, on pourra me dire que oui, je suis traitée différemment. Ça, c'est notre présidente nationale, Karine Rouvier, qui disait, voilà, moi, j'ai pas envie qu'on s'adresse à moi parce que je suis une femme, j'ai envie qu'on s'adresse à moi parce que je suis une chef d'entreprise. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est important aussi de sensibiliser les garçons et les hommes à dire, si on veut être tous égaux, c'est pas mettre l'accent sur le fait que je suis une femme chef d'entreprise, c'est juste mettre l'accent sur le fait que je suis experte dans mon domaine et que je suis une chef d'entreprise comme une autre.
Maria, la question du modèle de femmes qui portent des projets, qui montent leurs entreprises, est-ce que vous, ça vous a servi aussi un petit peu de déclic? Est-ce que vous en avez eu parce que ce salon de beauté, ça, c'est relativement récent.
Oui, c'est récent. Donc moi, j'ai ouvert en janvier 2020. Donc, peu de temps avant.
Un an et demi.
C'est ça. Donc, après, moi, effectivement, par rapport au modèle féminin, j'en ai beaucoup plus que dans d'autres domaines d'activité parce qu'en fait, vu que moi, j'ai ouvert un salon de beauté, on va dire que c'est exclusivement féminin pour le coup. Mais malgré tout, il y a beaucoup de jugements quand même par rapport à ce domaine d'activité parce que on n'a pas encore, comme tu disais, une totale légitimité dans le sens où on reste des femmes et on n'est pas reconnue comme experte dans notre domaine, comme chef d'entreprise et comme quelqu'un qui peut tout gérer en fait. Hein. Donc du coup, en fait, c'est très compliqué de se positionner quand on arrive, en plus quand on est jeune et qu'on arrive et puis on fait, on voudrait ouvrir un institut de beauté. Ça fait tout de suite un petit peu un projet un peu farfelu qui tient pas la route et on est un peu réticent à cette idée-là. Mais malgré tout, les modèles féminins sont quand même présents dans ce domaine d'activité.
Mais c'est cette réaction de réticence ou de ne pas vous prendre au sérieux, qui est-ce que vous avez eu en face et que vous avez senti concrètement?
Dans un premier temps, ça a été les agents immobiliers, vu que là, pour le coup, c'est un domaine masculin. Donc, quand on arrive avec plein d'énergie, plein de motivation et prêt à tout faire, et en fait, c'est tout de suite, mais vous êtes sûr, vous allez y arriver, non, mais vous êtes sûr de prendre ce local, il n'est pas trop gros pour vous? Non, pas de problème, j'y vais, il me plaît, je le prends. Ensuite, ça a été les banquiers. Oui, mais du coup, vous êtes jeune, vous êtes sûr de votre projet, vous l'avez bien réfléchi, vous vous rendez compte un petit peu de tout le travail qu'il va falloir fournir. Oui, pas de problème, on y va. Donc après, ça a été par exemple les comptables, ça a été donc plusieurs en fait acteurs autour de nous. Ça peut aussi être des amis qui justement n'osent pas se lancer et du coup ont plutôt peur pour nous et qui nous disent mais t'es vraiment sûr? Mais si du coup ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionnera. Donc il y a pas de problème là-dessus. Donc c'est vrai que à chaque fois il faut il faut toujours avoir la tête sur les épaules et être prêt et croire en son projet. Je pense que c'est ça qui fonctionne.
Mégane, les réseaux, les réseaux professionnels, femmes chefs d'entreprise, ça fait partie aussi de votre travail de sensibiliser ceux qui manquent, c'est pas qu'ils manquent de confiance, mais qui peuvent volontairement ou involontairement décourager des femmes qui veulent se lancer. Donc Maria parlait des banquiers ou des agents immobiliers. Ça fait partie de votre travail d'aller voir toutes ces structures et leur dire « Oh, oh !»
tout à fait. On a un gros travail de lobbying pour montrer qu'en effet, la femme, elle est tout aussi compétente que l'homme dans le domaine économique et dans la création ou reprise d'entreprise. Il y a aussi une méconnaissance. Hein. Je me souviens, il y a quelques mois, je discutais avec une personne de la Banque Populaire des Alpes et je lui parlais de certaines adhérentes qui ont vraiment eu des grandes difficultés à accéder à des prêts, notamment sur des start-up, parce qu'elles sont femmes et qu'effectivement, comme le dit très bien Maria, il y a beaucoup plus de questions de Mais vous êtes sûr, mais vraiment, et comment vous allez faire entre votre vie familiale, vie professionnelle, des questions qui ne se posent même pas à un homme dans ce genre de contexte. Et il me
même
disait...
quand il s'agit d'hommes jeunes.
Ah oui, c'est certain. Ben non, un homme jeune, il a la dynamique, il est actif, il a l'ambition, il va y arriver, il n'est pas encore forcément stable en couple, donc il a tout pour.
Pas l'âge finalement, c'est pas la jeunesse qui fait que les banquiers ou les agents immobiliers.
Ça en fait partie.
Je me demandais si ça pouvait concerner aussi des jeunes hommes qui se lancent.
Une jeune femme, c'est une femme qui est incompétente. Un jeune homme, c'est un homme qui en veut. Donc la perception n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que oui, ça fait partie de notre travail parce que des fois les acteurs économiques n'en ont pas conscience. Là, la personne avec qui je discutais me disait mais c'est pas possible. Mais moi, je regarde pas du tout une femme qui vient dans un de mes entretiens pour octroyer un prêt d'une manière différente qu'un homme. Je lui dis oui, mais c'est quand même une réalité. Donc il y a forcément un travail aussi à faire de sensibilisation parce que il y a des choses qui sont installées depuis tellement de temps qu'en fait on n'en a pas conscience. Et dès que la personne, quand je lui ai expliqué le contexte, elle me disait ah, mais oui, mais je peux imaginer certains de mes collègues poser des questions comme ça et du coup être beaucoup plus réticents à octroyer un prêt important à une femme qu'à un homme. Donc oui, c'est forcément une de nos missions principales en tant que réseau de montrer que non, il n'y a pas de raison à être plus réticent. Et en plus, les chiffres le montrent, il y a les entreprises qui sont tenues par des femmes sont plus pérennes et plus solides financièrement que celles tenues par des hommes, simplement parce qu'on va vraiment faire 10 fois le tour de la question avant de se lancer. Pas parce qu'on est forcément meilleur gestionnaire, pas du tout, mais parce qu'il y a plein de questions qu'on ne va pas se poser une fois qu'on est au pied du mur. On va se les poser avant de se lancer. Donc ça crée effectivement des fondations qui sont souvent, ou en tout cas aujourd'hui ça se voit, plus solides et du coup plus pérennes.
Émilie, de votre propre expérience, hein, vous le disiez au tout début, donc vous avez repris une société qui existait déjà, de miroiterie, Sogemi. C'est où? Vous vous trouvez où?
On est situé sur Saint-Martin-d'Air. C'est vrai que moi, la question d'être femme et jeune, quand j'ai racheté il y a 20 ans, ça a été tout de suite des freins parce que bah, déjà, mon premier salarié, quand j'ai racheté l'entreprise, n'a pas voulu être géré. Il m'a donné sa démission quelques mois après que j'ai racheté l'entreprise. Donc moi, toutes ces questions-là, je les ai eues au tout départ parce qu'il voulait, il ne voulait ni être géré par une femme, ni plus jeune que lui. Il y avait un petit peu de jalousie dans son état d'esprit et puis un peu machiste parce que je suis quand même la miroiterie, c'est issu du bâtiment. Donc quand j'ai racheté l'entreprise il y a plus de 20 ans, j'ai eu, on va dire, tous les freins et tous les stéréotypes d'une jeune femme qui arrivait sur les chantiers, qui n'était pas compétente. Quand j'arrivais, on me disait oui, c'est bien, vous êtes secrétaire, mais en fait, nous, on veut un technicien, on veut quelqu'un qui nous conseille sur les chantiers. Donc, j'avais une perte de légitimité vis-à-vis déjà de l'ancien gérant, quoi. Donc j'ai perdu aussi des clients au tout départ. Ça a été les 3 premières années, je pense que j'ai eu tous les problèmes inimaginables d'un chef d'entreprise. Et le fait d'être une femme, c'était encore plus compliqué dans le milieu du bâtiment. C'était très très machiste. Enfin, il y a 20 ans, c'était machiste. Je trouve que ça s'est amélioré.
C'est que les choses évoluent.
Non, les choses évoluent. Je pense qu'aussi au niveau de l'éducation, c'est ce qu'on disait, ce que Mégane disait, c'est qu'au niveau de l'éducation, que ça soit les hommes, enfin les filles ou les garçons, on essaye de donner même aux garçons le dire, bah voilà, on a les mêmes compétences que les hommes. Il suffit d'être bonne technicienne et c'est et c'est vrai qu'on nous donne un petit peu moins de légitimité sur les chantiers. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu ça au départ, quoi. C'était compliqué.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de racheter cette affaire? Vous étiez déjà...
Alors, je suis fille de vitrier. Voilà. Donc, c'est ce qui... Puis, je suis petite fille d'artisan. Donc, c'est vrai que moi, tout naturellement, quand on m'a demandé de... Enfin, quand on m'a proposé de racheter cette affaire, quand Dominique voulait partir à la retraite... C'est tout naturellement que j'ai accepté, parce que c'est vrai que c'était un challenge. Et puis, j'aurais dû être embauchée en tant que technico-commerciale dans une miroiterie concurrente à celle que j'ai rachetée. Donc, quand on m'a proposé cette affaire, j'ai eu le soutien de mon papa. Et c'est vrai que tout de suite, ça, j'avais envie de relever le challenge. Et je pense que mon père et l'ancien gérant étaient quand même visionnaires à l'époque de demander et de dire à sa fille, bah voilà, ce serait bien que tu rachètes mon fournisseur, parce que j'ai racheté le fournisseur à mon père. Voilà.
Donc, vous le disiez, vous n'avez pas baissé les bras, même si c'était difficile plusieurs années après le rachat. Aujourd'hui, donc ça fait
21 ans.
Aucun regret, donc
non,
vous êtes
aucun
toujours
regret,
à la tête de la société.
Toujours à la tête de la société, aucun regret. C'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais non, aucun regret. Après, j'aime ce que je fais. Le verre, c'est un matériau qui est noble. Puis j'ai beaucoup développé l'aspect décoration. Donc, il y a le verre de bâtiment, ça c'est sûr, mais il y a toutes les autres déclinaisons du verre. Et puis, je travaille beaucoup avec les musées. J'ai beaucoup développé en fait l'activité. À l'époque, j'avais un salarié, donc après j'en ai eu zéro. Et maintenant, j'ai 5 salariés. On a triplé le chiffre d'affaires. J'ai acheté beaucoup de machines. J'ai beaucoup investi ces dernières années. Donc non, je ne regrette pas et j'incite même toutes les femmes à même travailler dans le milieu du bâtiment. C'est un milieu qui a beaucoup d'emplois, qui est très prospère sur ces dernières années. Et j'incite même les femmes à travailler dans le bâtiment parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces freins, il y a toujours disons que il y a toujours ce milieu, c'est un milieu quand même masculin, mais ça est quand même vachement évolué. Puis on a des techniques de pour porter, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué dans le bâtiment. Donc j'incite la gente féminine à ne pas à sauter, à être peintre, à être carreleur, maçon, miroitier, voilà. Donc il y a beaucoup d'emplois même en tant que femme.
Et à se donner la mission de faire changer l'esprit masculin,
ouais,
dans ce domaine-là.
C'est ça.
Mégane, donc vous, par rapport à cette gérance de l'agence Witty, vous l'avez dit, vous avez aussi repris, racheté cette affaire. Donc pareil, comment ça s'est passé? Pourquoi l'envie de racheter et le regard des autres, alors hommes, mais peut-être aussi d'autres femmes qui peuvent douter de vous?
Pour le coup, alors moi j'étais photographe indépendante depuis quelques années, et puis en fait l'activité grossissait. J'avais également envie de revenir sur de la vidéo et d'avoir les deux, mais j'avais trop de travail. Et puis à l'époque, mon conjoint, qui était dans tout ce qui était événementiel sportif, trouvait pas forcément un emploi pérenne. Il avait très envie de développer aussi la partie vidéo avec moi, et du coup on a commencé à se dire, bah tiens, si on crée notre entreprise, ça fait un moment qu'on y pense. Et en fait, c'est vraiment par hasard ou en discutant avec une de mes connaissances, elle me dit, mais attends, mon ex-mari vend son entreprise d'audiovisuel, il souhaite partir à la retraite. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est retrouvés à avoir le projet de racheter l'entreprise Alpimage, à l'époque, qui existait sur Grenoble depuis 35 ans. Donc ça, c'était en 2013. Ça va faire 8 ans à la fin de l'année. On a eu 6-8 mois d'études, d'analyses très approfondies de l'entreprise pour savoir... dans quoi on mettait les pieds. Racheter une entreprise, c'est aussi vraiment savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on garde, qui a de la valeur, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on développe, parce que une entreprise dont le gérant part à la retraite, c'est aussi forcément une entreprise qui, depuis quelques années, est un peu plus sur du ralenti. Ça n'a pas forcément la même dynamique. Quand on reprend une entreprise, on est un peu tout feu, tout flamme, on a envie de faire plein de choses, de développer plein de choses. Je pense que quand on arrive à la fin de sa carrière, quand ça fait 35 ans qu'on gère une entreprise, on a un peu envie de lever le pied. Donc voilà, il fallait avoir une vraie étude financière, commerciale, aussi voir en termes de services, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, quel type de clientèle, tout ça. Donc, et c'est pas une mince affaire quand même de reprendre une entreprise. C'est beaucoup plus compliqué à mon sens que de créer une entreprise. Il y a plein de choses qui sont extrêmement positives parce qu'on peut récupérer potentiellement des clients qui auraient été beaucoup plus difficiles à toucher. Mais en même temps, c'est pas une page neutre, quoi. C'est pas une page blanche où on peut tout écrire. Il faut en effet faire bien attention à comment on s'adresse aux fournisseurs, aux clients, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va changer, essayer de pas non plus tout changer du jour au lendemain pour pas perdre les clients, et puis essayer aussi d'être, j'ai envie de dire, fidèle et honnête à l'âme de l'entreprise qu'on a rachetée, parce que quand un gérant il vend son entreprise, il vend son bébé, quoi, clairement. Donc il faut aussi avoir une certaine humilité et bienveillance de valoriser tout ce qui a été construit avant nous, qui mérite clairement d'être gardé. Mais moi, je suis quand même dans un milieu, alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus féminin qu'avant, l'audiovisuel. Des photographes femmes, on en voit partout. Même des caméramans femmes, on en voit de plus en plus. Bon, il y a une quinzaine d'années, c'était très loin d'être ça. Moi, j'ai eu un nombre de fois des remarques sexistes parce que en tant que photographe, ben, on est amené à être sur plein d'événements et dans plein de milieux différents. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais une des seules photographes femmes sur l'Isère et Grenoble. Et j'avais très souvent, quand je faisais des portraits, « Allez, rapproche-toi, pour toi, je peux faire un petit sourire. » Voilà, des remarques qui, moi, me mettaient pas forcément mal à l'aise, dans le sens où moi, j'ai grandi avec 4 grands frères et je suis, pour le coup, assez bien dans mes baskets et je sais où je vais. Donc, à partir du moment où la limite, elle est franchie, je pense que la personne aurait eu, pour le coup, un petit peu une situation compliquée à gérer parce que j'ai une forte personnalité. Donc, je me suis jamais sentie en danger. Mais je l'ai eu quotidiennement pendant des années. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, on me disait, ah, bah, de toute façon, toi, tu vas pouvoir faire le reportage parce que t'es jeune et t'es jolie. Voilà, des remarques qui, moi, me semblaient folles. Je veux dire, j'ai fait une école de journalisme, une école de photojournalisme. J'ai 5 ans d'études derrière moi avec une expérience très solide sur mon métier. Parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire, donc j'ai pas débarqué du jour au lendemain avec mon appareil photo et mon sourire, quoi. Mais très souvent, c'est ce qu'on allait me dire. On allait me dire, bah oui, t'es jeune, t'es jolie, t'as un beau sourire, ça va passer, toi, on va accepter que tu fasses le reportage.
De toute façon, c'est vrai que dans le domaine du sexisme, c'est là aussi les préjugés, hein, qui ont la vie dure. Maria, revenons un petit peu sur vous, votre parcours à vous. Alors, on a parlé des freins, vous l'avez dit plutôt. Les agents immobiliers et les banquiers qui ont été les plus difficiles avec qui négocier. Mais maintenant, parlons un peu plus de ce qui vous a simplifié la vie. Quelle a été la toute première étape, la première aide que vous avez eue une fois que vous aviez votre envie, votre idée, votre projet ?
Du coup, moi, dans un premier temps, j'avais fait appel à une courtière pour m'aider, bah, justement, pour un petit peu voir ce qui était possible de faire, déjà d'un point de vue financier. Du coup, cette personne-là m'a permise de, bah, justement, d'avoir un peu plus de connaissances sur les droits qui étaient possibles. Donc, elle m'a dirigée, bah, justement, vers des aides, justement, d'entrepreneurs femmes. Donc, on a ce qu'on appelle une garantie femme qui nous permet, justement, d'avoir plus de poids auprès des banquiers. Donc, ça permet, justement, de se dire, bon, bah, du coup, on va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et avoir un poids supplémentaire. Donc, ça aide beaucoup. Et après, bah, du coup, tout découle. Donc, moi, effectivement, ça a été une création d'entreprise. Donc, avant de m'installer dans ce local-là, c'était déjà un autre institut. Donc, nous, on a fait le choix, en fait, de raser, entre guillemets, l'ancienne histoire, donc, par rapport à toi. Et moi, ça m'a justement beaucoup plus cette idée-là de repartir de zéro. Parce que du coup, on n'a pas besoin de se calquer par rapport à une autre image qui ne collera pas forcément à nous. Et effectivement, le risque, c'est de perdre un certain nombre de clients, des fournisseurs, de pas être aimé, on va dire ça comme ça. Et du coup, en fait, de repartir de zéro, les premiers mois sont très compliqués parce qu'en fait, les personnes qui voient qu'il y a du changement, qui arrivent et qui demandent, du coup, vous faites quoi ? Quels sont vos tarifs, par exemple, et tout. Et puis après, en fait, on a un refus, 2 refus, 3 refus. Et après, là, on commence à avoir justement, le ciel qui se dégage et à avoir justement de la clientèle qui arrive et qui se stabilise. Moi, avant justement de tester, oui, parce que je suis encore en phase de test, on va dire ça comme ça, avant de me créer, en fait, j'étais déjà à domicile avant. Donc, du coup, ce n'était pas quelque chose qui m'était complètement inconnu. d'entreprendre et de mettre des choses en place. Mais oui, on va dire qu'à partir du moment où tout l'aspect administratif est passé, mais du coup, la difficulté, c'est vraiment de toujours tenir et de toujours s'accrocher, parce qu'en fait, c'est très long entre le moment où on trouve, ne serait-ce que déjà au moment où l'idée commence à émerger, le moment où on trouve un local, les acteurs financiers et où on s'installe. Moi, il y avait à peu près 5 mois de délai. Donc, en 5 mois, on a le temps de se poser des questions et de se dire, est-ce que du coup, j'y vais quand même? Est-ce que ça va fonctionner? Et puis, moi, du coup, je voulais ouvrir avant la période de Noël, donc en 2019. Au final, ça ne s'est pas fait, ça a reculé. Et du coup, après, on se dit, oui, mais du coup, ouvrir en janvier. Donc, nous, en janvier, ce sont des périodes qui sont creuses. Donc, on se dit, mais du coup, si je joue sur cette période-là, ça n'a plus d'intérêt. Et du coup, voilà, c'est plein de questions qui se posent. Mais au final, c'est toujours intéressant d'avancer, de continuer. C'est hyper enrichissant, en fait.
Alors, avant de faire notre petite pause musicale, avant de continuer l'émission, une dernière question. C'est un peu la question bateau classique qu'on pose lorsqu'on a des personnes qui viennent faire profiter un peu de leur expérience, de leur témoignage. Le piège à éviter quand on est jeune entrepreneur, que ce soit pour une reprise d'activité ou une création d'activité, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui peut-être se lanceront? Le piège, tout de suite, à avoir conscience et qu'il faut faire attention.
Alors moi, le piège avec le recul que j'ai, c'est de ne jamais laisser quelqu'un d'autre tenir les rênes ou dire ce qu'on doit faire. C'est toujours rester acteur en fait de son entreprise, de dire je connais mes chiffres, je sais ce qui est bon pour moi, ou je connais mon activité, je sais ce qui est bon pour moi. Donc c'est pas naviguer à l'aveuglette en disant telle personne elle m'a dit qu'il fallait faire comme ça, je vais la suivre. Parce qu'après en fait, à partir du moment où on va commencer à ouvrir les yeux, on va se dire mais en fait il fallait pas faire comme ça, donc on retourne en arrière. Donc c'est vraiment rester maître de son projet de A à Z en fait.
Émilie, un conseil?
C'est vrai qu'au départ, on fait confiance à pas mal de personnes parce que justement, on parlait des doutes, on parlait un peu des freins qu'on se met. Et c'est vrai que je rejoins un peu Maria. On commence à faire même confiance aux banquiers, à faire confiance à certaines personnes. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Maria. En fait, il faut vraiment rester un petit peu au-dessus aussi de son projet, de prendre un peu de recul et de se dire, c'est vrai que de toute manière, la seule et meilleure technicienne et chef d'entreprise, c'est nous qui avons créé. Donc, rester maître en fait, de son activité. C'est vrai qu'il faut c'est vrai que des fois les conseils sont bons à prendre. Mais je trouve qu'au départ, j'ai fait assez confiance à certaines personnes. Et bon, après, c'est dans nos erreurs qu'on apprend. Hein. Qu'on soit jeune ou même après 20 ans d'activité, on fait toujours des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on se relève et que justement, on dit finalement, j'ai pris cette voie-là. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise voie, finalement. C'est la voie qu'on va se donner qui nous permet d'être bien avec ce qu'on est, avec nos projets. Et de toute manière, on fera des erreurs. Et c'est notre nature humaine qui fait que, on prendra peut-être pas forcément les bonnes voies ou les bons chemins. En tout cas, on en a pris un, ça c'est sûr. On a pris un chemin, donc on a pris une décision. Je pense que c'est ça un petit peu la confiance qu'on a avec certaines personnes, mais bon. Voilà, c'est ce que je vous disais. Après, on se fait notre propre chemin.
Megan, moi, je vais être un petit peu plus terre à terre. Mais c'est aussi de mon expérience. Hein. C'est pour moi le gros piège quand on décide de monter son activité, quel que soit le projet, c'est de minimiser les chiffres. C'est vraiment de se dire, je suis technicienne, je connais mon métier, mon cœur de métier, c'est ça. Et je crois que c'est ce qui manque un petit peu, même quand on est accompagné sur de la création d'entreprise. On ne nous dit pas assez, attention, votre cœur de métier va représenter 30% de votre quotidien. Ça ne va pas être votre temps ne va pas être uniquement dédié à ce que vous savez faire. Il va falloir en fait apprendre tout ce que vous ne savez pas faire, mais qui va être très important pour gérer votre activité, et notamment la gestion financière et les chiffres. Donc ne pas minimiser le business plan. Moi, à l'époque, je me disais, mais business plan, c'est de l'hypothétique. C'est que de l'hypothétique. Donc à quoi ça sert ? C'est pas concret. C'est je suppose que je vais faire ça. Mais ça donne quand même une feuille de route. Et en fait, on se rend compte, et pour le coup, là, la période qu'on vit depuis un peu plus d'un an nous a bien rappelé à l'ordre par rapport à ça, c'est attention, si on ne connaît pas les chiffres, si on ne connaît pas les fondations financières de son entreprise, alors du jour au lendemain, elle peut s'effondrer. Et c'est même ça qui va faire qu'à un moment donné, on va réussir à la développer commercialement. Donc en fait, pour moi, le gros piège, c'est minimiser l'importance de cet aspect financier de l'entreprise.
Ça permet de rappeler que il faut jamais rester seul face à son projet et qu'il existe beaucoup beaucoup de structures associatives ou autres qui aujourd'hui accueillent, accompagnent, donnent des conseils. Alors rester maître bien sûr de son projet, mais ne pas hésiter quand même à multiplier les conseils et l'accompagnement. Voilà. Donc on va faire cette petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer. La discussion consacrée aujourd'hui à l'entrepreneuriat au féminin et plus généralement à la condition des femmes face à l'emploi, justement, c'est sur cet aspect-là qu'on va discuter un peu plus dans la deuxième partie. À tout de suite.
Tu vois ce canapé, y'a l'angle, au fond je suis assis là. Que le DJ soit Keop, Sabdel ou Cut Killer. T'as c'est pareil, je l'ai déjà dit dans le son. Bouge ta tête, tourne pas en rond. Les tracks s'enchaînent sur les V7 de panard bien vissé au pied de ma table déserte. Un pochetron s'approche et vient me kicker sans couper mort dans l'oreille. Et cool, tu postillonnes sur ma veste. Ces rimes qui baignent dans le JB soulève la question, la salive ou la piste. Ok j'y vais, mais ceux qui tournent sur la plate dit ne me botte pas dès que l'autre se casse. Allez je stop cash à la rigueur s'il y a du funk. Je fais tourner les bras, je leur resserre les pas du Mia. Non je me secoue pas sur la dance. Je me casse avant la fin de mon siège. J'observe et vois chuter gravement l'Empire romain.
Ah, ah là là c'est pas vrai, mais c'est toi. Je t'adore. Attends je t'ai vu 10 fois. On est 10 fois sur scène. Oh là là je t'aime trop. On peut prendre une photo s'il te plaît. Oh là là je t'aime.
Ok, je vois, elle connaît ses bases. Et cousine t'es brave, mais tais-toi si ce que t'as à dire c'est naze. Pour ceux et celles qui ne m'ont jamais vu crumper, ça donne un peu des faces comme celles qu'on voit aux soirées UMP. 15 ans après, si j'en appelle à la raison, je suis toujours comme il dit, je veux rentrer maison. Même si le son est bon et que je connais 2-3 pas, je danse pas. Même si tout le monde est pété et que personne s'en souviendra, je danse pas. Même si c'est à l'étranger que là on nous connaît pas, je danse pas. Même si l'ambiance est de folie et qu'on me tire par le bras, non, je danse pas.
Attends mais tu danses jamais toi.
Nous le hip hop, le breakdance, c'est tout.
Je danse pas quoi enfoiré, non je suis pas un fêlé. En soirée à ma table du rhum et pas de bêlé. Bien sûr je kiffe dancehall et R&B, mais à la rigueur si vraiment je suis ivre c'est pas une honte. Si le déhanché suit pas c'est pas de la bombe, mais bon c'est pas une honte. Et faut me voir remuer les coudes à la Snoop dans Bio les Faux. Genre je pense à Rio en regardant mes genoux. Et j'espère que ça se voit, je suis pas comme lui là-bas en bas au bar sur un pouf à me tenir le froid. Et je big up les street dancers qui brillent. Insulte les bouffons qui lâchent une choré de camping. Y'a celles qui fassent comme un clip de Lady Gaga. Mais après la vodka y'a plus que des lady bas de gamme. Des Beyoncé, de Châtelet, des BDD qui bavent. Des Justin en chien, en Gucci de Taïwan. On rigole c'est pas grave, on joue le jeu full feu. Si le DJ envoie des hits, j'ai les pieds qui bounce. Faut esquiver y'a un son qui me plaît, j'suis miné. Lève la main en l'air en mode ouais j'connais.
Même si le son est bon et que je connais 2-3 pas, je danse pas. Même si tout le monde est pété et que personne s'en souviendra, je danse pas. Même si c'est à l'étranger que là on nous connaît pas, je danse pas. Même si l'ambiance est de folie et qu'on me tire par le bras, non, je danse pas. Je danse pas. Non, je danse pas. We'll be right back.
La Voix de l'Emploi, c'est sur News FM. Vous écoutez La Voix de l'Emploi sur News FM et nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat au féminin et la condition des femmes dans le monde du travail. C'est donc sur cet aspect-là qu'on va poursuivre l'émission jusqu'à 14h. Nous sommes toujours en compagnie de Mégane Major du réseau Femmes Chefs d'Entreprise Grenoble-Alpes et gérante de l'agence Witty, Émilie de Barros à la tête d'une entreprise de miroiterie et Maria Archer, créatrice d'un salon de beauté sur Fontaine. Alors, je le rappelais en début d'émission, donc une entreprise sur trois environ est créée aujourd'hui par une femme. Cela signifie donc que deux entreprises sur trois le sont par des hommes. J'ai fait le calcul. Pourtant, on sait que les femmes sont plus nombreuses à faire des études supérieures. Alors, ça veut dire que études supérieures, création d'entreprise, finalement, il n'y a pas vraiment de lien ?
Ben, on revient vraiment à ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est le fait d'oser. C'est vraiment le fait d'oser. Bien sûr qu'il y a un lien, mais en fait, je ne crois pas que ce soit les études qui forcément façonnent le parcours d'entrepreneuriat, parce qu'il y a très souvent, enfin, en tout cas, moi, je rencontre très souvent des femmes chefs d'entreprise qui n'ont pas du tout suivi leur parcours d'études supérieures, mais qui, à un moment donné, soit avaient depuis longtemps l'envie d'entreprendre, soit se sont retrouvés face à une opportunité et l'ont pris, ou alors des histoires familiales, hein, quand même. Quand il y a une entreprise familiale à reprendre, bah, y a aussi cette possibilité-là. Mais je ne suis pas sûre, à mon sens, qu'il y ait une corrélation, en effet, entre le fait que les femmes font des études supérieures plus longues, ou qu'elles sont plus nombreuses à se lancer dans les études supérieures, et le fait d'entreprendre.
Sur vous trois et vos parcours, vos expériences, Maria est la seule à avoir créé son bébé. Tout à l'heure, Mégane, vous rappeliez qu'une entreprise, c'est un bébé. Quand on reprend une entreprise, eh bien, parfois, le fondateur, justement, peut être un peu casse-pied à ce niveau-là pour être sûr que vous êtes la bonne personne.
J'ai pas dit ça.
C'est ce que j'ai sous-compris derrière, entre les lignes. Je ne sais pas si c'était ce que vous vouliez indiquer. Alors, donc, par rapport à, justement, cette envie, Maria, ça vient d'où, cette envie-là ? Parce que vous êtes jeune encore, donc vous avez commencé esthéticienne à domicile, ouais. Chez vous, c'est ça ?
Alors, pas chez moi, donc à domicile, donc chez les...
Donc, vous déplaciez,
voilà, ouais, chez les personnes, les donc surtout la région grenobloise. Donc, j'en parlais la dernière fois avec ma mère, justement, donc plus tôt que je m'en souvienne, je crois que je devais peut-être avoir 5 ou 6 ans quand j'étais déjà en train d'imaginer d'avoir mon institut, de prendre soin de mes clientes, d'avoir justement un lieu justement qui serait propice à la détente, à la discussion, au bien-être. Et puis après, bah, du coup, comment dire, on va dire que les rêves d'enfant s'effacent un petit peu, mais du coup, celui-ci est resté un petit peu en tête et a continué d'émerger. Jusqu'au moment où on va dire que j'ai senti le moment le plus opportun pour me dire bah là c'est maintenant, faut que je me lance. Et mais du coup oui, depuis toute petite en fait, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu, donc
Et vous n'avez pas dévié de ces rails, de ce projet ?
J'ai dévié,
parce que,
en fait.
Donc voilà, on parlait à l'instant du lien qu'il peut y avoir entre études supérieures
c'est
et
ça.
Qui favorise la création d'entreprise.
Ouais,
donc vous,
ouais.
Vous avez fait des études supérieures ?
Alors bah, du coup, moi, en fait, avant de me lancer en esthétique, parce que j'avais peur de ne pas avoir le niveau, parce que du coup, dedans, en fait, on a beaucoup de biologie, de cosmétologie, de technologie d'appareil, donc c'est très technique. Et je me suis dit, bah, en fait, moi, je n'ai pas le niveau. Je le sens pas, donc je suis partie en bac couture. Donc, bah, en fait, j'ai dévié pendant 3 ans. Et jusqu'au moment où, en fait, je me suis sentie bah, en fait, que j'avais complètement les capacités pour partir en esthétique, que ce soit les capacités intellectuelles ou autres. Et après, bah, du coup, une fois que j'ai, comment dire, que je me suis sécurisée, bah, là, je suis partie dans mon projet, mais du coup... Bah, au final, j'ai refait un autre bac esthétique. Mais effectivement, je me suis arrêtée au bac parce qu'après, je n'en voyais pas l'intérêt de continuer en études supérieures. Pour moi, le niveau que j'avais acquis était suffisant pour ce que je souhaitais.
Et le fait de vous être rassurée, vous l'avez fait toute seule ou c'est aussi des rencontres, des discussions avec peut-être d'autres professionnels de l'esthétique?
Alors, dans un premier temps, j'avais plus besoin d'être rassurée d'un point de vue comment dire, bulletin scolaire, d'être apte à faire un bac, on va dire peut-être moins compliqué, ce que moi j'estimais moins compliqué, alors que ça l'était pas du tout. Mais du coup, de voir que... Parce que pour moi, les études, ça faisait vraiment deux. Au tout début, j'avais beaucoup de mal à apprendre, beaucoup de mal à comprendre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je fais de la biologie, de la cosmétologie, mais je vais me noyer dedans, ça va pas être possible. Et après, effectivement, c'est en voyant que j'étais complètement apte à parler avec justement des profs. Et après, j'ai fait des stages en esthétique. J'ai vu que c'était pas si, si sorcier et si extrême comme... comme métier, que du coup je me suis dit en fait c'est complètement à ma portée. Et du coup une fois que je me suis mise dans l'esthétique, j'ai fait un brevet professionnel chez Yves Rocher sur Saint-Marcellin, et à partir de là en fait ça a vraiment été le déclic, parce que du coup ma responsable était anciennement prof et elle m'a vraiment pris sous son aile, à tout m'expliquer, à vraiment me former de A à Z, et après du coup je pouvais voler de mes propres ailes sans peur, quoi. Donc oui, c'est après toute seule avec les autres. Et puis de toute façon, je pense que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Donc,
Alors, parlons un peu plus maintenant, effectivement, des inégalités entre hommes et femmes dans le milieu du travail. Alors, on va peut-être pas toutes les évoquer, mais c'est vrai que un peu le cheval de bataille depuis longtemps, c'est la question de la différence de salaire entre hommes et femmes sur des postes identiques. Les chiffres. Pendant longtemps, j'entendais que la différence salariale tournait autour de 25%, donc 25% en moins pour les femmes sur des postes similaires. Il semblerait que ça ait évolué, donc là aussi un bon signe. D'après une étude de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, de février 2020, l'APEC nous dit qu'en 2018, la rémunération médiane des hommes cadres était 16% supérieure à celle des femmes, et un écart de 8% subsiste si l'on compare les rémunérations des hommes et des femmes occupant les mêmes postes et ayant les mêmes caractéristiques. Donc, il semblerait que cette différence soit tombée un petit peu. On note, c'est intéressant, que cet écart de 16% se retrouve dans l'ensemble de l'Union européenne, même si c'est en Estonie que l'écart est le plus important, avec une différence de salaire entre hommes et femmes qui approche les 27%. Et par contre, les meilleurs élèves au niveau de l'Union européenne, c'est l'Italie ou l'Espagne, où la différence moyenne est de 3%. Donc bravo à eux, hein. On parle souvent de l'esprit macho méditerranéen, des cultures latino, Italie, Espagne, non, ils sont quand même meilleurs que nous. Alors, est-ce que vous, c'est peut-être pas la même chose, puisque vous êtes gérante, vous êtes celle qui décide dans vos entreprises, vous pratiquez égalité totale de salaire ?
Oui, après,
en fonction des postes,
oui, on essaye d'avoir... à compétences égales, d'avoir un salaire égal, et ce qui est normal, puisque c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme, c'est parce qu'on a des qualités techniques, on a des compétences, donc c'est ça qu'on va valoriser, en fait. C'est pas tant le sexe de la personne, c'est vraiment les compétences de la personne. Donc, après, c'est vrai que nous, dans nos entreprises, on essaye de faire attention à ça, et puis en tant que femme chef d'entreprise aussi, on sensibilise, ce que disait Megan, avec donc justement 100 000 entrepreneurs, quand on va dans les écoles et on va essayer de sensibiliser les gens et sensibiliser les jeunes. Et je pense que c'est ce travail-là qu'on fait depuis des années qui permet aussi de changer les mentalités et changer les chiffres.
Alors Mégane, justement, par rapport à tout le travail que vous faites via ce réseau Femmes Chefs d'entreprise, vous rencontrez beaucoup de gens. Que ce soit des hommes ou des femmes qui sont chefs d'entreprise. Est-ce que les femmes qui sont à la tête de grosses boîtes ont une approche particulière sur la question salariale, ou est-ce qu'elles aussi, elles sont un peu piégées par le système, les grilles de salaire ?
Alors, non, je ne pense pas du tout qu'elles soient piégées. En tout cas, autour de moi, de mon expérience et des femmes que je côtoie, j'en sens aucune piégée de quoi que ce soit, parce que c'est plutôt il faut quand même du caractère, il faut de la détermination, il faut savoir où on va, ce qu'on veut. Donc je connais personne qui est soumis à des normes qu'elle ne respecte pas et qui ne lui convient pas, et malgré tout elle les suivrait. Donc non, ça c'est sûr. Par contre, je pense qu'en effet on est on est attentive à ça, mais en même temps, pour nous, il n'y a pas, j'ai envie de dire que c'est même pas un sujet, en fait. Je ne vais pas faire la différence entre un salarié et une salariée. Comme disait Émilie, c'est juste une question de compétences. Je pense aussi, et ça, on le dit beaucoup moins souvent, et en tout cas, moi, je le vois dans mon entourage masculin, les hommes de ma génération sont très surpris de se rendre compte de la réalité qui persiste sur les inégalités salariales. Pour eux, ça leur paraît aberrant qu'on en soit là, encore là, et ils n'en ont pas forcément conscience. C'est vrai que de plus en plus, on parle des inégalités hommes-femmes. Ces 5 dernières années, on a mis l'accent sur beaucoup de choses. Et quand moi, je parle avec mon conjoint, quand je parle avec mes frères, mes amis, ils n'en reviennent pas, en fait, de se rendre compte de cette réalité qui, pour eux, n'est pas la leur. Donc, je pense qu'il y a quand même une évolution de mentalité aussi de ce côté-là. Hein.
Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous apporter une piste, une ébauche de réponse aujourd'hui. Mais la question qu'on a envie de se poser, c'est mais alors, ça vient d'où, cette différence de salaire? Parce que quand on en parle, qu'on soit homme, femme, tout le monde est majoritairement d'accord, à part quelques imbéciles, pour dire que évidemment c'est une question simple, une question de bon sens, de justice, que tout le monde ait le même salaire à compétences égales. C'est pour ça que je parlais de système. Qui décide que une femme à compétences égales va toucher moins?
Alors pour le coup, moi j'ai, il y a quelques années, j'ai eu un emploi. J'étais indépendante photographe avant de reprendre l'entreprise. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un emploi en tant que photographe dans une institution à mi-temps. J'ai vraiment négocié assez fort mon salaire parce que j'ai fait des écoles extrêmement reconnues et j'estimais que mon parcours professionnel et mes études méritaient que j'ai un bon salaire. Et je me souviens de la réaction autour de moi de « Ah oui, mais même en tant que photographe, tu as quand même osé un peu défendre ton beefsteak et vraiment... négocier ton salaire. » Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que je n'entendais jamais ou très rarement mes amies femmes me dire qu'elles avaient négocié leur salaire quand elles avaient eu un entretien d'embauche. Par contre, à l'inverse, j'ai des amis qui, eux, mais n'hésitent pas, des amis hommes, qui n'hésitent pas à dire « Non, mais là, j'ai envie de changer d'emploi, je vais arriver sur ce poste-là. » Et c'est hors de question que je sois au même salaire que mon ancien emploi. J'ai forcément plus d'expérience, donc je mérite plus. Et du coup, je pense qu'il y a aussi quand même de ça, on n'en parle pas, on a l'impression que c'est une norme de fait où à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé que les hommes seraient plus payés que les femmes. Je pense qu'il y a aussi quand même vraiment une posture de négociation où nous, on se dit bah, déjà, si j'ai le poste, sachant qu'il coche toutes ces cases de l'intérêt, de l'implication que je vais avoir et de ce qu'il va m'apporter en termes d'enrichissement professionnel, c'est déjà super. Là où les hommes, ils se disent « Non, même si j'ai la moitié des compétences à apprendre, il n'y a pas de raison, j'ai 10 ans d'expérience, donc je vais négocier plus. » Donc, à mon sens, j'ai eu l'impression ces dernières années que finalement, ça venait aussi de là. Ce truc où, lui, il négocie plus, donc on va lui donner, elle n'a pas négocié. Je veux dire, que ce soit une institution, une entreprise, on reste quand même sur de la gestion financière et de la rentabilité. Hein. Si elle me négocie, ok, mais si elle ne me négocie pas, je ne vais pas lui proposer 200 euros en plus parce que... j'ai envie, quoi.
Oui, c'est le principe en fait, de la demande d'augmentation. Les patrons attendent qu'on leur demande, sinon ils ne vont pas la proposer. Donc ça voudrait dire, encore une fois, que ce sont les femmes qui se sous-estiment elles-mêmes.
Ou les hommes qui surestiment.
Ouais.
Il y a les deux, je pense.
Alors, il faut savoir hein, que le gouvernement prend très au sérieux la question de l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. En mai 2018, notre gouvernement a présenté un plan d'action pour en finir avec les inégalités femmes-hommes dans les entreprises. Donc je donne rapidement quelques détails parce que c'est assez intéressant à savoir. C'est une loi qui a donc été promulguée en septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a mis en place un outil d'évaluation pour mesurer et corriger les différences de rémunération dans les entreprises. Les entreprises ont désormais une obligation de résultat et non plus seulement une obligation de moyens. Tous les ans, chaque entreprise d'au moins 50 salariés, donc ça concerne déjà des entreprises d'une certaine taille, doit calculer et publier sur Internet son index d'égalité femmes-hommes. Cet index prend en compte plusieurs critères, comme la suppression des écarts de rémunération, les mêmes chances d'avoir une augmentation, la même chance d'obtenir une promotion, l'augmentation de salaire garanti au retour de congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Alors, ces contraintes imposées aux grosses entreprises, est-ce que ça fait effectivement bouger les lignes Pour ce que vous en savez, est-ce que ça joue en faveur d'une évolution des rapports hommes-femmes? Est-ce que ça doit passer par la loi?
Moi, je pense que clairement, oui, parce que ça va permettre déjà à remettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité et voir dans les entreprises où c'est vraiment un peu trop disproportionné, de remettre justement cette base et de revaloriser la femme dans son travail. Après, le risque, c'est que plutôt dans les petites entreprises, n'étant pas obligées, entre guillemets, de respecter cette loi, il y ait encore un peu ce type d'inégalité. Moi, je trouve que c'est surtout dans les petites entreprises, et étant donné qu'il y a très peu de moyens, on va dire ça comme ça, si on ne va pas justement demander directement et dire, bah voilà, moi, je vaux tant, je veux tant, et bah du coup, effectivement, le patron va un petit peu... rester muet, rester dans l'ombre et attendre sagement qu'il y ait une manifestation qui arrivera certainement jamais, en fait, au final. Parce que c'est un peu comme devenir chef d'entreprise, c'est soit on le veut et on y va et on demande, soit en fait, on fait rien et puis on reste caché et puis on attend qu'on vienne nous chercher, mais ça se passe pas comme ça, quoi. Donc je pense que ça serait bien de la généraliser un peu à toutes les entreprises, comme ça, au moins c'est fait.
Émilie, Mégane, donc vous, bah après, c'est vrai que gérante, chef d'entreprise.
C'est vrai que les lois, ça aide. Après, ça ne fait pas tout. Et c'est ce qu'on disait, c'est dans les mentalités, il faut que ça change. Après, je pense que dans les petites entreprises, moi, personnellement, c'est vrai que je fais attention à ça, que tout le monde soit payé par rapport aux compétences. Mais j'ai pas besoin qu'on me tape sur les doigts pour faire les choses. Donc, c'est vrai que sur les grosses structures, comme ils ont peut-être plus tendance à avoir à regarder au niveau des actionnaires, tout ça, au niveau de la rentabilité, je pense que c'est. Alors, c'est vrai que sur les grosses entreprises, on est toujours obligé de taper dessus pour que ça avance. Dans les petites entreprises, je pense pas. Enfin, moi, personnellement, même dans les chefs d'entreprise que je côtoie, parce que du coup, je côtoie plus des entreprises artisanales. Dans les petites entreprises, quand les salariés ont tout donné, parce qu'on est des petites structures et que tout le monde prend le même chemin, le même objectif, tout le monde est récompensé. En tout cas, je trouve qu'au niveau du management, dans les petites structures, la récompense salariale, elle est, enfin, en tout cas, dans les entreprises que je connais et que je côtoie, c'est plus vrai, quoi. On est une équipe, on va tous dans le même sens et on est tous rémunérés en fonction du chiffre de l'entreprise, quoi.
Mégane, pour le mot de la fin, puisqu'on est, on arrive bientôt.
Ouais, il y a deux semaines, et Émilie était présente et il y avait d'autres adhérentes avec nous. On a rencontré justement Madame Moreno, qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est passée sur Grenoble et qui voulait justement discuter avec nous de toutes ces questions-là. Je pense que oui, il faut que ça passe par des lois, parce que si les jeunes femmes n'ont pas des modèles, dans le sens où au-dessus d'elles, quand elles sont dans des entreprises, elles voient des femmes avec des hautes responsabilités, elles vont pas se projeter à pouvoir un jour être à cette place. Ça, j'en suis fondamentalement convaincue. Après, je pense qu'il faut faire quand même attention. Le 50-50, ça vaut uniquement pour des compétences. Moi, je ne vais pas prendre une femme parce que c'est une femme si elle n'est pas compétente. Et je trouverais ça vraiment dommage qu'on se retrouve au sein des entreprises, au sein des institutions, avec des personnes qui sont là et qui ne sont pas compétentes, mais qui sont là juste parce que c'est des femmes. Ça n'a aucun sens au niveau de l'évolution de la société. En revanche, et là je suis bien placée quand même pour le savoir, parce que j'ai une petite fille qui a un mois et demi, il ne faut pas se leurrer que nous, en tant que femmes, il y a un parcours de femme dans sa vie privée qui est la grossesse, qui est l'accouchement et qui est ensuite le fait de gérer des petits. Si les hommes n'ont pas, eux, la possibilité de prendre plus leur place dans la vie familiale, alors c'est certain qu'une femme, elle va avoir un gros coup de frein dans sa vie professionnelle, sur ces quelques mois-là. Et je pense qu'en plus, il y a plein d'hommes qui ont envie de prendre cette place-là. Donc, je pense que ça se joue sur plein de choses. C'est pas noir ou blanc, il y a plein de nuances. Je pense que les hommes ont besoin qu'on leur donne plus de légitimité et plus de place dans la vie familiale et dans la vie privée. Je pense qu'aussi, il y a plein d'hommes qui n'ont pas d'ambition et qui n'ont pas envie de, d'être à la tête de tel ou tel poste au sein des entreprises, là où il y a des femmes qui le veulent, mais qui vont effectivement avoir plus de freins parce que ben, est-ce que je ne vais pas être freinée ou est-ce que je ne vais pas être pénalisée du fait d'être enceinte, derrière d'avoir un petit bout. Voilà. Moi, c'est clair que sans mon mari, je ne suis pas là aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est une complémentarité. Et ça, c'est valable pour tout, dans tous les domaines de la société. Il faut qu'on soit une équipe. Un homme, une femme, il faut qu'on soit des équipes. Il faut qu'on travaille ensemble. On a tous besoin les uns des autres. Les choses, elles évolueront ensemble.
Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion pour cette émission. Alors, évidemment, quand on parle des inégalités ou des rapports hommes-femmes, il y a aussi la question importante des... non seulement des préjugés machistes qu'on a déjà un petit peu évoqués, vous en avez parlé, mais il y a aussi la question du comportement harcèlement ou agression sexuelle, verbale ou physique qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudra faire une émission à part entière sur cette thématique-là et qui rejoint un débat qui anime la société en dehors du monde du travail, la question des comportements masculins vis-à-vis des femmes. Donc ça, et ben comme je le disais, voilà, c'est pour une prochaine fois. Donc il me reste plus qu'à vous remercier toutes les trois d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment. Nous étions en compagnie de Mégane Major, présidente du réseau FCE, femme chef d'entreprise Grenoble-Alpes, et gérante de l'agence WITI, Maria Archer, donc gérante du salon de beauté au Omaha, à Fontaine, et Émilie de Barros, gérante de la miroiterie Sogemi, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, c'est merci.
C'est ça, à Saint-Martin-d'Air. Merci encore à tous.
Merci, avec plaisir.
Et à une prochaine fois sur News FM. Moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Eh oui, on fait une petite pause avec la Voix de l'Emploi pour l'été. Très bonne journée, très bon après-midi, retour de la musique. Et tout à l'heure, c'est Sana qui revient aux commandes du 16-19. À bientôt, salut.
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.